raté, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal de vivre. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, monsieur la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, c'est les Gaudigarig Montpellier, Canassule à Toulouse, Radio Primitive sur Reims. Et Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, eh bien, je crois qu'on va commencer par une rubrique qui existe sur Canal Sud à Toulouse. D'habitude, on a toujours notre créneau horaire dans cette radio et là, on leur pique quelque chose. C'est une chronique sur la lutte contre bas élèves et surtout l'information, l'information de ce qu'est le fichage des enfants. Alors peut-être que... Voilà.
Bonjour, ici la chronique RBE. L'herbe, c'est moi. L'herbe, c'est vous. Et eux, ils sont indéfinissables. La seule chose que l'on sait d'eux, c'est qu'ils sont sans foi ni loi. C'est déjà trop. RBE, c'est la chronique de la résistance à bas élèves. Bas élèves, c'est le fichage de l'enfance à l'école. Je vais vous expliquer. La base élève est une base de données, comme un gros fichier informatique, dans lequel sont enregistrés tous les élèves français. Il y en a une par académie, et les informations de ces bases élèves académiques sont rassemblées dans une base nationale qui conserve les données jusqu'à 15 ans après la sortie de l'école. À ce gros fichier centralisé d'élèves, on connecte peu à peu d'autres bases de données contenant toutes sortes d'informations sur chaque élève, exactement comme on ajoute des colonnes à un fichier Excel. On connecte notamment le livret personnalisé de compétences, dont nous reparlerons en détail. Et donc, les élèves sortent du système scolaire avec un super portefeuille de compétences. L'Europe a mis en place un système dénommé Europass, qui a pour but de transformer ce portefeuille de compétences en CV électronique, qui est stocké dans une base de données de CV de futurs travailleurs. Personne ne maîtrise le devenir de ces données. Tout est tracé, il n'y a aucun droit à l'oubli, et les CV peuvent être comparés entre eux. Donc on peut faire du profilage de travailleurs. Alors peut-être, vous-même n'avez-vous pas été toujours en haut du classement dans votre parcours scolaire. Et donc peut-être que votre employeur n'aurait pas retenu votre CV si un tel système avait existé à votre époque. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose pour vos enfants. C'est ce que je vais vous raconter au cours de ces chroniques. Et le point de départ, c'est la base élève. Explication. Tout part de la première inscription de votre enfant à l'école, bien souvent en maternelle. Vous remplissez des papiers qui contiennent des informations personnelles et vous le faites machinalement. Et parfois, vous vous dites que ces informations serviront en cas de nécessité aux enseignants ou aux directeurs. Et puis, il faut bien constituer un dossier par enfant, hein ? Alors, il y a tout un tas de questions que nous ne nous posons pas dans ce moment-là. Et pourtant, si nous posions ces questions, eh bien, elles nous permettraient de retrouver le sens des choses ou bien d'en comprendre l'absurdité. Question numéro 1. Quelle est la différence entre un dossier papier et un dossier informatisé? C'est vrai, ça. On peut tous les deux les transmettre à un autre enseignant, à une autre école, à un collège, mais le dossier informatisé évite d'avoir à ressaisir les informations. D'accord, mais alors, Pourquoi ce dossier informatisé est-il intégré à une base nationale? Et d'ailleurs, comment? Question numéro 2. Pourquoi, lorsque les informations sur votre enfant et sur vous-même sont saisies dans cette application qui s'appelle Base Élève, pourquoi cette Base Élève envoie-t-elle ces informations à un serveur central qui se trouve quelque part du côté de Paris? Un serveur qui crée un numéro pour votre enfant et qui crée un numéro par enfant. 6 millions d'élèves en primaire en France, donc 6 millions de numéros, 6 millions de fiches. Le numéro est créé la nuit et retourne dans la même nuit vers la base élève de l'académie, et c'est comme ça que le directeur de l'école voit attribuer un numéro à votre enfant. Question numéro 3. Comment s'appelle ce serveur, ou plutôt cette application centrale? Eh bien, il s'appelle la BNIE, la Base Nationale Identifiant Élèves. Question numéro 4. À quoi ça sert d'avoir tout le monde dans un fichier? Réponse: à faire des statistiques. Numéro 5. Le lieu de naissance d'un enfant a-t-il un intérêt pédagogique? Numéro 6. Comment fait-on de bonnes statistiques? Réponse: avec de bons indicateurs. Question numéro 7. Quelles informations doit-il y avoir dans une grande banque de données telle que la Base Nationale Identifiant Élèves pour avoir des statistiques intéressantes? Est-ce qu'il doit y avoir seulement le nom, l'âge et le sexe des enfants? Non, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui réussit ou qui échoue et pourquoi à l'école. Donc quand je dis qui, je ne m'intéresse pas à un nom ou à un prénom, je m'intéresse à un type de parcours de vie d'enfant, à un type de scolarité d'enfant. Question numéro 8. Alors, comment avoir toutes ces données pour faire des statistiques intéressantes? Eh bien, il faut pouvoir raccrocher d'autres sources d'informations et les informatiser et relier tout ce qui concerne un enfant à son numéro d'identifiant. Numéro 9. Qu'est-ce qui concerne l'enfant? Eh bien, il y a ses résultats scolaires, ses évaluations, ses redoublements, est-ce qu'il a un suivi particulier, est-ce qu'il bénéficie d'une aide, est-ce qu'il fait des stages pendant les vacances, est-ce qu'il a un handicap, quelle est la catégorie socio-professionnelle de sa famille, dans quel quartier il vit, quel est son comportement, etc., etc., etc. Donc, si c'est informatisé, pour que ce soit traité statistiquement, on ne peut pas partir des commentaires des instits qui diraient « il est lent mais il apprend bien, il n'arrive pas à abstraire, donc comme il est lent je lui donne un peu moins d'exercice » ou bien « il bouge tout le temps, il n'arrive pas trop à écouter, mais je vois que le potager de l'école le calme, il faudrait que je puisse m'en servir pédagogiquement, etc. etc. » Bon, ça ne se traite pas statistiquement. Donc, on découpe les programmes en compétences à acquérir et on demande aux enseignants de mettre des croix. Et là, ça peut se traiter statistiquement. Question numéro 10. Comment étudier des scolarités complètes? Eh bien, en faisant la même chose au collège, et donc en reliant les informations du primaire aux informations du collège, puis du lycée, bien évidemment. Voilà, c'était les 10 premières questions que l'on peut se poser, mais il y en a bien d'autres. D'ailleurs, j'en pose deux autres. Est-ce que les statisticiens de l'éducation nationale ont d'autres moyens pour faire des photographies et des analyses qu'en partant d'un fichage nominatif et exhaustif de chaque enfant de l'école primaire française? Oui, ils ont d'autres moyens. Ils peuvent travailler sur des cohortes et ou ils peuvent crypter les données. Et d'ailleurs, ils l'ont proposé. Mais vraisemblablement, ça n'a pas été retenu. Sinon, on n'aurait pas créé la Base Nationale Identifiant Élèves. Autre question. Comment faire des économies de personnel dans les collèges, les lycées et au rectorat? Eh bien, en informatisant les dossiers de demande d'inscription. Même si, du coup, cette gestion informatisée, elle génère des aberrations dans les affectations des élèves, et elle enlève toute marge de manœuvre aux proviseurs des lycées, aux principaux des collèges et surtout aux familles qui n'en peuvent plus décider de rien. Alors toutes ces dérives, elles sont expressément liées à la volonté inébranlable du ministère de tout automatiser et de faire des économies. Quand on est un peu soupçonneux et qu'on ne s'en laisse pas compter, on dit qu'il y a des volontés sous-jacentes. La volonté sous-jacente, c'est d'évaluer la politique de l'éducation nationale uniquement avec des chiffres. Des chiffres qui soient manipulables à l'envi et plus aisément que les analyses des enseignants, des parents et des pédagogues. La volonté, c'est d'avoir un outil qui autorise toutes les intrusions dans les dossiers des élèves et de leurs familles, quelle que soit la raison, y compris les raisons inavouables, et donc de se comporter très facilement comme des flics. La volonté, c'est de faire des économies à l'État et pour cela, de gérer des flux. C'est facile, tant d'élèves, tant de profs en face. Et même pire, tant de profs, tant d'élèves en face. Et donc, on met en place des processus d'exclusion. Au collectif national de résistance à Bas-Élèves, les parents et les enseignants qui nous inquiétons de toutes ces dérives, nous avons réagi. Comment avons-nous réagi? Eh bien, dès 2008-2009, nous avons déposé plus de 2000 plaintes contre X. Donc, ce sont les parents qui ont déposé des plaintes. Ces plaintes ont été classées sans suite. Alors, nous avons pris un avocat, et cet avocat a saisi un juge d'instruction. Ce juge d'instruction est nommé depuis l'été 2012. Nous avons saisi le Conseil d'État, et le Conseil d'État, après notre saisie, a rétabli le droit d'opposition des parents, ce droit qui leur était nié, à l'enregistrement des données de leur enfant dans la base élève. Donc nous avons utilisé, nous parents, notre droit d'opposition en écrivant des courriers aux inspecteurs d'académie. Les inspecteurs d'académie ont considéré que nos motifs d'opposition n'étaient pas légitimes. Alors, nous avons saisi les tribunaux administratifs. Et en parallèle avec notre avocat, nous avons mis l'État en demeure. Nous l'avons mis en demeure d'effacer les données de la base élève. Nous l'avons mis en demeure de rendre effectif le droit d'opposition. Nous l'avons mis en demeure de se conformer aux décisions du Comité européen des droits de l'enfant. Dès le début, nous avons créé un site internet qui fait référence à la matière. Si vous tapez « retrait base élève », eh bien vous tomberez très facilement sur le site. Dès le début, nous avons ouvert une caisse pour les frais d'avocat. Et vous pouvez nous aider financièrement, même très modestement. Si vous êtes préoccupé par cette question du fichage, vous appelez la radio et on vous donnera nos coordonnées. Et durant tout ce temps, avec cette caisse, nous avons soutenu, y compris financièrement, les enseignants qui s'opposent à la base élève et qui sont sanctionnés à cause de cela. Et nous avons soutenu tous les parents dans leur dépôt de plainte et dans leur démarche d'opposition, y compris financièrement. Voilà, c'était la chronique RBE, résistance à base élève. À la semaine prochaine, même jour, même heure. Bonjour, ici la chronique RBE. L'herbe, c'est moi. L'herbe, c'est vous. Et eux, ils sont indéfinissables. La seule chose que l'on sait d'eux, c'est qu'ils sont sans foi ni loi. C'est déjà trop. RBE, c'est la chronique de la résistance à Bas-Élèves. Bas-Élèves, c'est le fichage de l'enfance à l'école. Je vais vous expliquer. La dernière fois, je vous ai raconté comment, à partir des informations que vous donnez sur vous et votre enfant, quand vous l'inscrivez pour la première fois à l'école, on attribue un numéro national à votre enfant. Je vous ai expliqué qu'il existe une base nationale identifiant élèves dans laquelle sont fichés tous les enfants du primaire, et ceux du collège bientôt. Je vous ai dit que sous couvert de faire des statistiques pour évaluer le système scolaire, les gouvernements créent des dispositifs de fichage et des dispositifs de gestion des flux des enseignants et des élèves. J'avais posé une question. J'avais dit, est-ce que les statisticiens de l'éducation nationale ont d'autres moyens pour faire des photographies ou des analyses que de partir d'un fichage nominatif et exhaustif de chaque enfant? Oui, ils travaillent sur des cohortes et ou en cryptant les données. Et d'ailleurs, ils ont proposé ce cryptage de données. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Pourquoi? Pourquoi est-ce nominatif, alors que les statisticiens n'en ont pas besoin? Quelqu'un en a besoin? Qui a besoin de savoir ce qu'un enfant a appris ou pas? Qui a besoin de savoir ce que quelqu'un sait faire ou pas? Mais celui qui va l'embaucher et le payer? Bon, alors, vous allez dire que j'exagère. Hein, vous allez dire, on ne peut pas faire un lien entre bas élèves et le marché du travail. Comment croire qu'il y a un lien entre bas élèves et le marché du travail? Qu'est-ce qui le prouve? C'est le livret blanc de l'éducation et de la formation. Ce livret blanc de l'éducation et de la formation a été rédigé par une commissaire européenne en 1995 et elle propose un système d'accréditation des compétences individuelles. Je cite la commission de Bruxelles en 1995. Le niveau de la personne sera enregistré sur une carte personnelle qui deviendra le véritable passeport pour l'emploi. Savez-vous comment s'appelle ce passeport? Il s'appelle Europass. Et il comprend notamment l'Europass mobilité pour les périodes d'apprentissage. Je cite encore la commission de Bruxelles en 1996. Cet Europass et les autres doivent être complétés sous forme électronique en Europe et dans les centres Europass dans chaque pays. Tous les centres Europass sont reliés entre eux et s'appuient notamment sur les informations recueillies dans les services publics de l'emploi et de la formation. Donc, nos enfants, quand on les inscrit à l'école, eh bien on les inscrit sans le savoir dans un fichier, dans une base de données de travailleurs. Et pour ce faire, une des applications qui s'accroche à la base élève, c'est le livret personnalisé de compétences. Qu'est-ce que c'est ? C'est une application informatique qui se divise en compétences, qui définissent un ensemble de connaissances, de capacités et d'attitudes. Par exemple, la compétence 1, c'est la maîtrise de la langue française. Chaque compétence est ensuite divisée en domaines, par exemple, lire et écrire. Et chaque domaine est divisé en items, par exemple, dégager par écrit l'essentiel d'un texte. Vous, en tant que parent, vous n'avez pas été mis au courant du fait que les compétences de votre enfant sont enregistrées de manière informatisée dans un livret. Ce livret personnalisé de compétences a été imposé aux professeurs et aux enseignants du primaire et n'a pas fait l'objet d'une information aux familles. Donc ce sont les professeurs principaux qui valident les compétences en concertation avec l'équipe pédagogique, mais le chef d'établissement a le droit d'intervenir pour modifier cette validation, ainsi que d'ailleurs le jury du brevet qui a le droit d'intervenir. Donc on pourrait penser que le livret personnalisé de compétences est une spécificité franco-française. Eh bien en fait non, il s'agit d'un phénomène mondial. Partout où il a été mis en place, le livret personnalisé de compétences se résume à un référentiel standardisé des compétences en rapport avec le marché de l'emploi. En 1997, l'OCDE met en chantier un nouveau type d'adaptation des acquis scolaires qu'elle nomme les compétences clés. Et le livret personnalisé de compétences n'est que la déclinaison de ces directives européennes. Ce livret, il a pourtant échoué un peu partout. Par exemple, au Québec, il n'a pas résolu l'échec, et il s'est soldé par une régression des résultats, et donc il a conduit à un violent rejet de la part des enseignants, parce qu'ils le trouvaient complètement illisible, et les familles aussi le trouvaient complètement illisible. En Suisse, les expérimentations ont démontré que les élèves ne saisissaient plus du tout le sens d'un travail qui était morcelé, émietté en micro-compétences. Ailleurs, on a pu déplorer la multiplication de grilles locales d'évaluation de sorte que plus personne n'évaluait la même chose, et donc ça contribuait à accroître les inégalités entre les établissements. Pour en revenir à ce que je disais sur le fichage des travailleurs, dans la continuité de la base élève, ce livret personnalisé des compétences présente des dangers majeurs pour les libertés individuelles. Et ces libertés sont déjà fortement mises à mal par les logiciels de saisie informatisés, par exemple de bulletins ou de notes, qui prétendent à une sécurisation des données des élèves, mais qui ne la garantissent pas en réalité. Je vous donne deux exemples. La sécurité du dispositif de la base élève, par exemple, est sous-traitée à la multinationale RSA Security. Alors, problème, l'entreprise a annoncé le 17 mars 2011 avoir subi une cyberattaque sophistiquée qui a permis le détournement d'informations essentielles. Autre exemple, en septembre 2012, on a trouvé sur Internet des listes académiques d'élèves qui étaient sans affectation à la rentrée et où apparaissait le numéro de téléphone portable des élèves. Donc en matière de sécurisation des données, on fait mieux. Et puis ces entreprises privées, qu'est-ce qu'elles font des informations sur vos enfants et sur vous ? Comment les stockent-elles ? Pour combien de temps ? Comment les gèrent-elles ? Tout ça est très opaque. Donc si le livret personnalisé de compétences se met en place, grâce à la base nationale identifiant élèves qui est alimentée par les bases élèves académiques, eh bien c'est l'ensemble de la population française qui sera fichée en quelques années. Vous voyez que sous prétexte d'éducation tout au long de la vie, on est en train de rétablir un dispositif extrêmement régressif, d'aucuns le rapprochent des livrets ouvriers qui existaient au XIXe siècle, que les ouvriers devaient faire remplir par leur employeur et qui servaient de passe pour changer d'employeur. Alors, vous savez que la CNIL veille, ou je dirais presque fait semblant, de veiller à l'application de la loi Informatique et Liberté de 1978, et cette loi prévoit pourtant un droit d'opposition, pour des motifs légitimes, à ce que des informations confidentielles et personnelles fassent l'objet d'un traitement informatisé. Mais on n'a jamais demandé aux parents s'ils acceptaient que leurs enfants soient fichés via le livret personnalisé de compétences. Ça pose un vrai problème de liberté. Et maintenant, tentative de poésie. C'est écrit. Tu sais lire ? Tel écrit qui croyait vivre seulement de l'avenir. C'est écrit de l'autre côté de l'océan. C'est écrit, il faut l'admettre, dans une langue de gangster, où le sujet doit faire l'action exprimée par le maître. C'est écrit d'une voix passive. Et où as-tu appris à lire ? Il faut la croire, cette histoire d'enfant vibrant qu'on paralyse, et de professeur qu'on arrête pour trafic d'émancipation, fabrication de libre-arbitre, abus de biens communs. Arrête ton numéro de prétoire. Faut pas que ça te fasse de la peine. Ça se passe pas chez nous, mais en face. Et un océan nous protège. Mais qui est-ce qui trinque ? Les profs, c'est tir au flanc, feignant comme des dictateurs ? Ou bien ce sont nos enfants de cœur, lâchés d'en haut de l'ascenseur ? Arrête. C'est pas la mort à boire. Plus près de chez nous, les rosbifs, leurs mômes ne vont plus à l'école. La récré, c'est une poubelle. Les copies sur du papier gras, des fish and chips, des fish and rats, les cours haras, les profs poubelles. Ça nous fabrique de beaux barbares, des niards pas grandis, des soudards. Arrête. C'est pas la mort d'y croire. Les enfants, c'est des durs à cuire. Ça pousse même dans le pouce à jouir. Et puis un enfant, c'est grégaire. Ça fait ce que tu lui dis de faire. Pas que les enfants, mon frère. Qu'est-ce qu'on a fourré dans ta tête de caporal analphabète ? Moi, les enfants, ça me pousse à vivre. Tout petit, à l'école primaire, corps perdu dans l'imaginaire, la classe immense, un océan, le maître un fanal, et l'enfant esquif entre deux doux récits, et l'autre qui est toujours son frère. Grandir à l'ombre des brises ordures, extraordinaire aventure. Arrête, lire c'est immoral. Immoral toi-même, braconneur. Tu la veux comment ton école ? Comme une entreprise d'enfants avec sa raison d'être morte ? Les enfants, tu les aimes comment ? Cerveau lavé ou banc d'espoir ? Enfant savon ou enfant phare ? Arrête. Moi, je veux pas savoir. Voilà, c'était la chronique RBE, résistance à bas élèves. À la semaine prochaine, même jour, même heure.
Même jour, même heure la semaine prochaine, je crois pas. On en a passé deux.
Hein, ouais, il en reste encore deux.
Ouais. Il en reste encore deux. Je crois que.
Faire quelques commentaires et remarques dessus. Bah non. Enfin, l'avantage, c'est que c'est très bien fait et très synthétique, quoi. Ça résume.
C'est très synthétique. D'un autre côté, c'est tellement synthétique qu'il faut faire gaffe, quoi, au niveau de peut-être de la vulgarisation. Mais bon, ça, c'est autre chose. Par contre, moi, j'ai des choses à dire parce que, bon, déjà, dans notre région, au niveau des instits, dans la région, il n'y a rien eu de résistance à bas élèves. Il faut dire que le principal syndicat dans d'instit a été pour dès le début, hein, contrairement à d'autres régions où le même syndicat, en particulier en Haute-Garonne, puisqu'il s'agit de Toulouse, en Haute-Garonne, par exemple, le SMIPP, il s'agit de ce syndicat, s'est opposé à bas élèves. Alors, la résistance à bas élèves a fonctionné et fonctionne encore dans un certain nombre d'endroits, en particulier, bon, Haute-Garonne, mais aussi dans l'ouest de la France, mais aussi dans l'Ain, mais aussi dans beaucoup de départements de l'ouest, du sud. Surtout, on peut dire, en zone rurale, même s'il y a eu des grandes villes comme Toulouse, Rennes, Grenoble aussi, mais Marseille. Mais autrement, il n'y a pas eu grand-chose dans les Paris, par exemple, il n'y a pas eu grand-chose. Peut-être en banlieue, mais ça a quand même été une résistance, c'est une résistance tout de même, malheureusement quelque part, minoritaire. Alors, il faut dire que c'est mené par des parents d'élèves et des instits, mais en fait, ces parents d'élèves sont bien souvent en lien direct avec des instits. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont bien souvent issus de ce milieu, hein, d'enseignants. Là aussi s'explique le fait que c'est limité à 2000 personnes, 2000 parents, c'est beaucoup, mais c'est peu finalement quand on sait le nombre d'enfants qui sont dans les écoles, même primaires. Alors je pense qu'il faut dire aussi un certain nombre de choses, c'est-à-dire que cette résistance a été au début, a eu des aspects de lutte directe, intéressante, hein, avec en plus refus de formation de ces instits. Il y a eu même des stages qui ont dû être annulés par l'éducation nationale, où les ordinateurs ont été changés de place, etc. Il y a eu des actions vraiment directes. Et puis après, cette lutte s'est complètement orientée vers le juridique, avec avec des victoires, entre guillemets, hein, ce que c'est une victoire juridique, bon, c'est quand même toujours limité dans le temps, puis là, limité surtout par le fait que, de toute façon, une juridiction disait quelque chose, et puis l'éducation nationale faisait autre chose, comme d'ailleurs la fille le dit très bien. Donc, au niveau juridique, il y avait des tas de choses, il y a même eu des choses qui ont été faites au niveau de l'ONU, hein. Puisque au niveau de les droits des enfants au niveau de l'ONU, il y a eu des choses qui ont été gagnées sur le papier toujours, hein, parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, et que tout ce milieu qui s'est battu donc pendant des années, puisque c'est une lutte qui date d'il y a quand même une bonne douzaine d'années, a eu un immense espoir avec l'élection du PS, hein, de Hollande. Alors c'est ainsi le site Retrait Bas Élèves qui est cité dans le truc qu'on a entendu là. Je pense que cette antenne, je vous en avais déjà parlé. Eh bien, ce site Bas Élèves, à partir de juillet, août 2012, eh bien, il n'y a pratiquement plus grand-chose, quoi. On demandait s'ils allaient mourir ou pas, hein, puisqu'ils étaient orientés de plus en plus vers des promesses électorales faites par un certain nombre d'élus du Parti Socialiste, bien évidemment, qui devaient donc supprimer, soi-disant, la base élève, et puis surtout, dans un premier temps, pour évoquer la suppression de bas élèves, c'était aussi d'arrêter toutes les poursuites qu'il y avait eu, en particulier tous les retraits sur salaire qui avaient été faits au niveau des directeurs d'école, puisque ce sont les directeurs d'école qui fichent les enfants sur bas élèves. Et en fait, il n'en a rien été. Et en janvier, donc il y a 2 mois, il y a eu des instits du Jura qui ont été de nouveau sanctionnés, donc sous un gouvernement de gauche, sous le gouvernement de Payon, puisque le ministre, c'est Payon. Alors il y a eu des promesses énormes, il y a eu un truc qui a été, je pense que vous vous rappelez peut-être, j'ai pas mes notes là, mais c'est dommage, il y a eu Payon qui avait organisé, je crois, les assises de l'école, un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement le terme, et bas élèves y étaient allés. Et bas élèves s'était fait inscrire dans le truc qui était justement en lien direct avec ce pourquoi ils se sont constitués en tant que retrait à bas élèves. Et là, au stupeur, celui qui dirigeait la commission en question au niveau ministériel, c'était tout simplement quelqu'un qui vendait le matériel informatique à l'éducation nationale. Donc effectivement, là, c'est un industriel, tout simplement. C'est un industriel qui fabriquait. Donc, et là, effectivement, ils sont aperçus, ces braves incites de gauche, que les dés étaient vraiment pipés. Bon.
Alors, tu disais tout à l'heure que c'est les directeurs d'école qui inscrivent C'est pas tout à fait ça. En fait, si vous vous souvenez, il y a eu pendant très longtemps une grève administrative des directeurs d'école qui a duré plusieurs années. Et en fait, cette grève administrative s'est arrêtée lorsque le gouvernement précédent leur a mis entre les mains du personnel précaire qui fait la grosse majorité du travail administratif des directeurs d'école. Et donc, eux, c'est de plus en plus, ils se lavent les mains en disant, de toute façon, c'est pas nous, c'est le personnel qui remplit le fichier bas élèves, c'est pas nous en tant que directeur. Et puis, c'est vrai que ça ne concerne que les directeurs. Les instituts n'ont aucun accès direct à bas élèves, puisque c'est le directeur qui est chargé de remplir.
Voilà, alors bon, je crois qu'on aura l'occasion peut-être d'en reparler. D'ailleurs, sous cette antenne, on avait fait une émission, et je me souviens maintenant, avec des instits ou des gens qui refusaient bas élèves dans l'Aveyron, rappelez-vous, hein. Et d'ailleurs, il nous avait sorti un discours citoyenniste, où vraiment, c'est aussi ce milieu, hein, vraiment très citoyen, et finalement, leur citoyennisme les a fait disparaître, puisque maintenant, bas élèves au niveau de l'Aveyron, ben, on n'en a pas pu causer. Ben, il faut dire qu'il faut se remettre peut-être du fait que ils ont des vrais citoyens de gauche au pouvoir maintenant. Il va falloir qu'ils fassent une analyse de cette situation. Et ben, quelque part, ça fait marrer parce que en 81, il y a eu quand même beaucoup de gens qui se sont fait des illusions avec Mitterrand. C'est moins qu'on puisse dire. On se disait avec Hollande, il y en aura beaucoup moins. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup moins. C'est moins qu'on puisse dire, puisqu'aujourd'hui, effectivement, bon, il y a peu de gens qui se font encore des illusions dans ce gouvernement de gauche.
Il y en a beaucoup trop.
Hein?
Il y en a toujours beaucoup
trop. Il y en a
trop.
Toujours beaucoup trop. Mais bon, il y en a quand même. Mais il y a quand même un secteur où il y a eu des luttes, quelque part, où il y a eu cette illusion dans la gauche. C'est bien chez les instits, c'est bien chez ces directeurs d'école, etc.
Musique, hein?
Musique.
On veut du silence et du temps, on veut sortir à la lumière, on veut cultiver nos enfants et on veut cultiver nos terres. On veut du silence et du temps, on veut sortir à la lumière, on veut cultiver nos enfants et on veut cultiver nos terres. Notre-Dame des Landes de terre, Notre-Dame des chemins de long, Notre-Dame des oiseaux de terre, Notre-Dame des livrets des sons. Notre-Dame des Landes de terre, Notre-Dame des chemins de long, Notre-Dame des oiseaux de terre, Notre-Dame des livrets des sons. On ne veut pas de tant de temps, on ne veut pas de tant de fer pour les avions. Il n'est plus temps, on ne veut pas de votre enfer. Notre-Dame, qu'est-ce qu'il peut faire? Notre-Dame des routes et des ponts, Notre-Dame des oiseaux de fer, Notre-Dame des bêtes à béton. Descendu le vent du ciel est descendu le verre, on ne veut pas que du ciel descendre de mauvais de fer. Du ciel est descendu le vent du ciel est descendu le verre, on ne veut pas que du ciel descendre de mauvais de fer. Quand je dis aux oiseaux de fer, pas de fer en place des oiseaux, que c'est triste un monde sans terre, que c'est cher un monde de tout. Quand je suis aux oiseaux de fer, pas de fer en place des oiseaux, que c'est juste un monde sans chef, que c'est cher un monde de ton. On ne veut pas de tant de temps, on ne veut pas de tant de fer pour les avions. Il n'est plus temps, on ne veut pas de votre enfer. Notre-Dame, c'est qu'il se perd, Notre-Dame des routes et des ponts, Notre-Dame des oiseaux de fer, Notre-Dame des bêtes à béton. On a mis tant de temps à faire, et maintenant, tenant, tenant, et maintenant, on devait les faire. On a mis tant de temps, on a mis tant de temps à faire, et maintenant, tenant, tenant, et maintenant, on devait les faire. La mort des fermes et du bocage, la mort des chemins des oiseaux, la mort des nains, la mort des vaches, la mort du lait, la mort du loup. La mort des terres et du bocage, la mort des chemins des oiseaux, la mort des mâles, la mort des vaches, la mort du lait, la mort de l'eau. On ne veut pas de tant de temps, on ne veut pas de tant de fer pour les avions. Il n'est plus temps, on ne veut pas de votre enfer. Notre-Dame, les îles de fer, Notre-Dame des routes et des ponts, Notre-Dame des oiseaux de fer, Notre-Dame des bêtes à béton. On ne veut pas de tant de temps, on ne veut pas de tant de fer, on ne veut pas de votre enfer, on ne veut pas de votre enfer. Notre-Dame, les îles de fer. L'autre jour en m'y promenant, j'ai vu le vol d'une hirondelle. J'ai vu qu'elle avait du tourment. C'était le retour du printemps.
Alors, deuxième partie de l'émission, on va parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, d'un beau moment d'émotion collective, un beau moment du spectacle tel que celui-ci, c'est bien le produire et le mettre en scène, mais évidemment, vous doutez bien que sur les Gregor, des moments de consensus comme ça, nous on n'aime pas trop. D'ailleurs, faut toujours se méfier quand il y a un consensus comme ça de la part de toute la société, de ses élites et de ses médias et de ses élites politiques et médiatiques, c'est que ça casse quelque chose, il y a quelque chose derrière. Alors,
ah, tous, c'est exagère. Je connais une ligue juive qui n'était pas du tout dans...
Oh oui, mais alors on va pas non plus relever les délires monomaniaques de trois abrutis de la Ligue de Défense Juive qui s'est permis de se faire remarquer, de se faire parler d'elle plutôt, en publiant un communiqué sur la mort de Stéphane Hessel, puisque c'est de lui dont on va parler. Alors pardon hein, pour ceux que ça lasse, mais il nous a quand même semblé intéressant de dire quelque chose pas forcément sur ce type, parce que c'est pas forcément intéressant de cracher sur un cadavre encore chaud, c'est pas du tout en plus notre objectif, mais c'est d'essayer de comprendre un petit peu qui est cet homme, qu'est-ce qu'il représente, et pourquoi justement il y a un tel moment d'émotion collective à ce moment-là. Alors, Stéphane Hessel, vous savez, c'est le pépé indigné, 95 ans, l'homme qui danse avec le siècle, etc., etc., et donc revenu sur le devant de la scène depuis 4 ou 5 ans par la rédaction d'un petit opuscule de 22 pages, d'une trentaine de pages, pardon, avec la préface qui s'appelait Indignez-vous. Alors, Stéphane Hessel, c'est pas quelqu'un qui sort quand même de n'importe où, c'est quelqu'un qui a lié son existence et son intervention à toute l'histoire à la fois du monde contemporain, mais aussi à toute l'histoire de la structure de la société française, et plus particulièrement de sa puissance et coloniale et diplomatique, en tous les cas de politique étrangère. Stéphane Hessel est un résistant qui est parti à Londres assez rapidement, en fin 40, début 41, qui va travailler à l'intérieur du bureau de renseignement, le BCRA, le Bureau Central de Renseignement et d'Action, tout près évidemment du général de Gaulle, à l'intérieur des gens qui vont essayer de penser la future société qui sortira de la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, Hessel travaillera pendant de longues années à l'ONU, auprès de Fernand Laugier et de René Cassin, qui sont les architectes de à la fois de l'ONU mais aussi de la diplomatie française après guerre. Et ensuite, à partir de 59, Stéphane Hessel va être chargé de la coopération dans différents ministères, notamment dans l'éducation nationale, mais aussi dans la coopération et la mise en place des instances diplomatiques dans la France de la décolonisation. Donc on y reviendra, parce que cette question de l'étranger et du traitement de l'étranger, elle est vachement importante. Alors Stéphane Hessel est un pur produit évidemment de l'élite française, bien que lui-même étranger, puisqu'il est né allemand, il sera naturalisé en 1930. À noter que certainement, s'il vivait dans cette époque aujourd'hui, il serait certainement pas naturalisé et il pourrait pas avoir la carrière qu'il a eue, quoique, en tant que grand bourgeois, normalement, ça devrait pas poser de problème, mais bon.
Oui, puis européen quand même.
Oui, européen, oui, bon, hein, on sait jamais, hein. Il a toujours été lié donc aux différents gouvernements de toutes les républiques, que ce soit la 4e ou la 5e, il a toujours été un acteur prépondérant, je l'ai dit, de la politique étrangère française. Alors donc, produit l'école normale, produit du Quai d'Orsay, de la diplomatie française, etc., etc. Et alors donc, Hessel, pas forcément un nom qui vient en avant quand on pense à la politique extérieure de la France, quoique on le remarque dans une affaire qui nous met une petite puce à l'oreille quand on pense aujourd'hui, c'est l'affaire Clostre. L'affaire Clostre en 77, sous le pontificat de VGE, de Valéry Giscard d'Estaing, qui était la capture d'une ethnologue et de son époux, je crois, où elle était tout seule, je sais plus. À l'époque, il y aura tout un un arrangement qui sera fait. Alors à l'époque, le chef du Tchad s'appelle Hissène Débris. Pas encore.
Débris.
Peu importe, enfin bon, il intervient justement dans ces phases de diplomatie, je dirais secrète en tous les cas, ces moments de
négociation intense.
Oui, voilà, de négociation intense. Tu parles en tous les cas de négociation sous le tapis. Et si je parlais justement de la question de l'étranger et de la politique extérieure française, c'est que nous, on a pu, quand je dis nous, c'est les gens qui luttent dans la société et qui ont pu avoir affaire à Stéphane Hessel, on a pu le rencontrer, le remarquer, je dirais, dans le concret, au début des années 90, sur la question des sans-papiers. Parce que, d'une part, Stéphane Hessel a été le fondateur d'une association qui s'appelle l'AFTAM, qui s'appelle plus comme ça maintenant, qui s'appelle Coalia. Et en fait, l'AFTAM, c'est donc une association qui est en fait une société d'HLM qui avait pour vocation à être ce qu'on appelle aujourd'hui une entreprise sociale d'habitat, c'est-à-dire de construire des lieux pour accueillir toute la manœuvre d'immigrés à partir de 1963, qui va donc venir en particulier de l'Afrique pour pouvoir les loger dans, soi-disant, des conditions agréable de vie, mais qui en fait est une véritable entreprise, hein, puisque cette AFTAM, pardon, qui s'appelle aujourd'hui Coalia, elle est bien connue des gens qui se battent sur la question du logement à Paris, puisque dans les quartiers populaires, elle a de nombreux logements inhabités sur lesquels elle spécule, et notamment l'un d'entre eux, le 194 rue des Pyrénées, qui appartenait à l'AFTAM, a été occupé de manière sans droit ni titre, donc c'était un squat l'année dernière, et évidemment, là, il n'y a pas d'entreprise sociale d'habitat qui compte, il n'y a pas d'indignation qui compte, et ben évidemment, les gens qui étaient à l'intérieur se sont fait virer manu militari, et l'AFTAM est allé en justice pour demander l'évacuation de ces squatteurs. Enfin bon, c'était une anecdote, mais je pense que c'est intéressant pour voir que tout n'est pas lisse dans ce personnage, que finalement la question de classe et la question de sa position dans la société, elle influence également, elle détermine ses positions et son discours. Bon, alors je reprends sur la question des sans-papiers. En 1990, Michel Rocard confie la rédaction d'un rapport à Stéphane Hessel sur la question des migrants. Et c'est cette position, c'est cette expertise qui va lui permettre, lors du mouvement des sans-papiers de l'église Saint-Ambroise et Saint-Bernard, de devenir le président du collège des médiateurs sur la situation des sans-papiers. En effet, face à ce mouvement qui prenait une ampleur assez importante, il était nécessaire de stopper, et de stopper également la vague de solidarité qu'il y avait avec les sans-papiers à l'époque. Puisque à l'époque, il y avait des manifestations où il y avait quand même 40 000 personnes dans les rues, 50 000 personnes dans les rues pour soutenir le mouvement des sans-papiers. Et donc, eh bien, Hessel va servir à la fois de caution et de moyen technocratique pour pouvoir médier, pour le coup, apaiser cette tension. Au final, on sait ce qu'il adviendra, puisque à peine 15% des demandeurs à ce moment-là seront régularisés. Et par contre, Hessel va servir de caution de gauche, j'allais dire quasi volontaire, quoi, pour pouvoir lancer le gouvernement Jospin. Puisque à l'issue de Saint-Bernard, il va y avoir une véritable discrédit de la droite, et effectivement, Jospin va aussi profiter de ce mouvement d'opinion pour se faire élire. Et bien évidemment, comme tu dis, hein, la gauche, on ne sait pas à quoi elle sert, mais en tous les cas, elle sert à bien décevoir, puisque les gens se rappelleront qu'avec les lois Chevènement, sur 80 000 demandes, il y en aura à peine 40 000 qui seront régularisées, quoi. Donc voilà, Stéphane Hessel, pour nous, c'est tout ça. Donc c'est pas quelqu'un qui peut nous être antipathique, mais c'est quelqu'un quand même qui n'est pas forcément de notre camp. D'autant plus que lorsqu'on lit ce qu'il y a dans ce petit opuscule, indignez-vous, c'est comment dire ça sans être trop féroce, soit d'une naïveté absolue, soit en tous les cas d'un positionnement politique qui reste quand même extrêmement discutable. Quelques citations comme ça. Il y a une sorte. Déjà, il y a un anticommunisme féroce au nom d'un totalitarisme, puisque est opposé à la fois le capitalisme américain et le communisme qui, pour lui, est représenté dans l'URSS stalinienne. Je cite, hein, « Le message d'un Mandela, d'un Martin Luther King trouve toute sa pertinence dans un monde qui a dépassé la confrontation des idéologies et le totalitarisme conquérant. » Oui, bien sûr. Alors, Martin Luther King, il a quand même été assassiné, et Mandela, il était en prison parce que c'était le chef du groupe armé de l'ANC. Hein, donc, c'est pas... Donc, voilà, pour Stéphane Hessel, ce qui trouve sa pertinence, c'est soit quelqu'un qui se fait buter, soit quelqu'un qui fait 30 ans de prison. Je passe évidemment sur les considérations géostratégiques et économiques. L'immense écart qui existe entre les très pauvres et les très riches ne cesse de s'accroître. C'est une des innovations des 20e et 21e siècles. Oui, bon, le 19e siècle, il n'a pas forcément été non plus très...
Terrible.
Quant au Moyen-Âge et à l'esclavage, on peut peut-être se discuter tout ça. Mais je crois qu'à la limite, donc, sur le constat, on peut ricaner, on peut être d'accord. Ce qui est assez tragique là-dedans, c'est la conclusion qui est faite de ça. C'est que finalement, ce qui en résulte, c'est une indignation qui est légitime, d'après lui, mais qui ne trouve pas de débouché politique autre que celui d'une démocratie fantasmée, réduite à la simple position du vote et de la représentation politique, faisant preuve d'assez peu d'imagination, en fait, et au final, d'un monde qui ne peut être transformé radicalement, puisque la menace du totalitarisme est derrière. Remarquons que lui n'a pas besoin de voir un monde transformé radicalement, puisque effectivement, dans ce monde, il a sa place et elle est plutôt enviable, que ça soit pécuniairement, bien évidemment, mais aussi au niveau du pouvoir. C'est quelqu'un qui est dans la sphère du pouvoir. C'est quelqu'un qui peut peut-être éventuellement influer sur le monde. Donc, il est évident que quand on part de ça, on comprend un peu mieux la messe médiatique à laquelle on a eu le droit. Et d'ailleurs, il n'est évidemment totalement logique que dès à présent, toute une partie de cette gauche-là ait commencé à vouloir surfer sur cette vague de sympathie que le décès de Stéphane Hessel avait pu engendrer, puisque on a une pétition pour que l'indignation entre au Panthéon, donc pour faire entrer la dépouille de Stéphane Hessel au Panthéon. Je vous passe les signataires, hein, c'est magnifique. Et puis il y a quand même un magnifique communiqué de la présidence de la République qui, bien évidemment, a tout compris, puisqu'il demande à chacun des gens qui auraient pu être intéressés ou qui auraient pu se reconnaître dans les écrits et les positions de Stéphane Hessel, de suivre son exemple, c'est-à-dire d'écrire des livres et de ne surtout pas, de ne surtout pas se révolter, quoi.
Mais là, faut pas oublier que c'est de Hollande, ce que tu dis là.
Pour l'entrée en Panthéon.
Non, la citation.
Oui.
Pas oublier que Hollande parle d'un camarade de parti.
Tout à fait.
Parce que Hessel a été tête de liste d'une des motions présentées au dernier congrès du PS.
Et puis Hessel a demandé aux gens qui pouvaient se reconnaître de son combat de voter pour Hollande, comme il avait pu supporter Ségolène Royal, comme il avait pu supporter Jospin, etc., etc. C'est-à-dire que l'indignation, en fait, c'est peut-être bien, mais ça mène toujours à la même chose. C'est comme l'extrême gauche, il faut voter à gauche à la fin du jeu, quoi. Et donc, en fait, je crois que à la fin de ce week-end, il y a eu un rassemblement spontané de gens à Paris, à la Bastille, qui se présentaient avec des pancartes et des banderoles sur lesquelles étaient inscrites « Inclinez-vous ». Je crois que c'est de manière involontaire de leur part un excellent résumé de tout ce que portait finalement Stéphane Hessel, le message qui était avec lui, c'est-à-dire qu'il nous disait à nous sommes légitimes non seulement à nous indigner mais à nous révolter parce que ce monde nous exploite et nous est insupportable, et ben de nous incliner et de nous contenter d'une indignation qui serait morale, qui serait de bonne loi. Non, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est non seulement il faut s'indigner, il faut s'enrager, mais il faut se révolter, quoi. Et malheureusement, malgré toute la sympathie qu'on peut avoir pour Stéphane Hessel et le poète qu'il est, ou l'admirable littérateur qu'il peut être, encore que ça peut se discuter, malheureusement, il faut le dire, Stéphane Hessel, il n'est pas de notre camp et il ne sera jamais de notre camp, ça c'est évident.
Pause musicale, si notre... Ah, attends, il a les moufles, là.
Dans le Paris des Républiques, l'accordéon nostalgique a semé bien des musiques dont il reste des échos. Dans nos cœurs, il y a des rengaines dont les rimes incertaines se prenaient pour du Verlaine, du Bruant ou du Carrefour. Le chanteur des rues qui brame, à votre bon cœur, messieurs, dames, Paris sera toujours Paname et tout ça ne vaut pas l'amour. Lorsque les télés s'allument, pauvre fantôme des brumes, s'en revient succès posthume, nous hanter au fond des tours. Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, à chaque fois qu'on l'entend, on a les larmes aux yeux. Paris, c'est plusieurs villages, et chacun a son visage, le 16e a son langage, et la bastoche a le sien. On dit cause en argomuche, et Pantin se dit ventruche, mais ni le montant, ni le muche, et le temps n'y change rien. Moi, j'aime bien la place des fêtes, et les choses étant bien faites, pas loin du tabac buvette, il y a l'église et la mairie. Moi, je rigole quand je pense à ceux qui partent en vacances, en Bretagne ou en Provence, rien ne vaut l'air de Paris. Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, on se croirait au printemps, le ciel est toujours bleu. On sait bien de par le monde que Paris c'est une blonde et les visiteurs abondent, il en vient de tout pays. La tour Eiffel les étonne, le musée Grévin les passionne et la Seine enfin leur donne l'attrait de ses quais fleuris. Dans la lumière irisée, ils s'en vont l'âme grisée le long des Champs-Élysées et comprennent que Paris restera quoi qu'il advienne la capitale souveraine, la seule, l'unique et la reine par le cœur et par l'esprit. Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, dans le genre exaltant on ne pourrait pas faire mieux.
Oui, on va faire une petite rectification, un peu d'importance, mais bon, au niveau de, du Tchad et au niveau de l'enlèvement de Françoise Claustre, c'était pas le, le nom qu'on avait dit tout à l'heure, c'était Essanabré qui était au pouvoir à cette époque-là au Tchad. Alors je crois que demain, il y a une manifestation, demain, attention, pour les Rémois.
Ouais, donc mardi, autres, mardi 5.
Mardi 5, il y a une manifestation, il y a des manifestations en France. Ou peut-être, on espère, peut-être que les gens vont reprendre goût à être dans la rue, hein, puisqu'il y a quand même longtemps que ça ne s'est pas produit. Et c'est contre ce fameux accord, accord LANI, c'est ça ?
C'est ça, l'accord national interprofessionnel qui a été signé le 11 janvier par des syndicats dits minoritaires, enfin en tous les cas...
Ils sont plus que minoritaires
plus
quand même. Hein.
Ultra minoritaires.
La CFTC, je crois que la CGC qui ne représente rien, et puis la CFDT représente un peu tout de même. Donc on en est quoi, un tiers de... Des syndiqués, sachant que les syndiqués dans le truc privé, ça représente que 5% des gens qui bossent encore. Donc vous voyez, 5% de un tiers de 5%, ça représente vraiment beaucoup.
Représente 15 personnes en France. En fait. Et donc, et ben malgré cela, cet accord qui donc a été réglé le 11 janvier devrait être transcrit dans la loi le 6 mars.
Pas forcément parce que demain. Le 6 donc,
pas, demain
donc
c'est le 5. Après-demain
le 5, ça passe en Conseil des ministres.
Oui.
Seulement.
Mais bon, il y a de fortes chances pour que ça soit accepté tout de go. Et alors, c'est toujours super chiant de lire la prose législative et la prose de ces accords-là, quoi. Mais c'est quand même une sacrée saloperie, quoi. Puisque pas étudié à fond, mais en tous les cas, ça va changer pas mal de trucs, quoi. Et en tous les cas, entériner aussi des trucs qui avaient déjà lieu, mais bon.
Oui, ça donne beaucoup de choses pour les patrons, mais pas beaucoup de choses pour les salariés, puisque la plupart des points qui seraient, entre guillemets, en faveur des salariés, sont conditionnés à d'autres discussions, et certaines, je pense, ne verront jamais le jour, mais ça, c'est pas grave. Mais je pense que une chose qu'il faut dire là-dessus, c'est que cet accord, au départ, il n'est pas fait pour ça. Peu importe au gouvernement le résultat de cet accord, il fallait qu'il y ait un accord qui soit signé, et tout ça, c'était pour répondre aux agences de notation. Il fallait pas qu'il y ait une dégradation des notes de la France au niveau des agences de notation. Et donc il fallait à tout prix qu'un accord, qu'on revienne dans le droit chemin de ce qui se passe dans d'autres pays européens, c'est-à-dire qu'on arrive non pas à un texte de loi, mais à un accord négocié qui va se transformer en texte de loi. Mais le plus important, c'est que les partenaires sociaux, ça c'est pareil, ça m'a toujours fait rigoler, on n'a jamais été partenaires sociaux des patrons, donc les partenaires sociaux arrivent à se mettre d'accord sur un texte, aussi boiteux soit-il.
Et il ne peut être que boiteux, vu le rapport de force qui existe aujourd'hui. C'est ça aussi qu'il faut voir, hein. C'est-à-dire que le rapport de force est complètement défavorable à la classe ouvrière et aux prolétariats en général, qui fait qu'on en prend plein la gueule, ça c'est évident, et que cet accord ne pouvait n'entériner que cet état de fait. Bon, je pense qu'on y reviendra, mais au niveau du contenu, il y a des tas de choses à dire, mais il y a des choses quand même qui sont compliquées en plus à comprendre, hein, parce que quand tu le lis, c'est pas du tout évident de se payer, et je crois qu'au niveau de la loi, ça sera un peu la même chose, puisqu'on parle carrément de reprendre l'accord. Enfin, il faut savoir tout de même que un accord signé par le MEDEF, qui remet en cause, surtout, c'est ça qu'il faut voir, qui remet en cause tout ce qui est le droit du travail en France, tout au moins des grands pans entiers du droit du travail, ça ne peut être effectivement qu'au détriment des salariés. Ça,
ouais, je crois que tu as raison sur les agents de notation, en tous les cas, pour l'intérêt du gouvernement, mais pour l'intérêt du patronat, il y a des choses qui sont très parlantes et qui montrent bien que lui n'oublie jamais où il est et jamais où il se trouve, de quel côté de la lutte des classes il est. Je donne un seul exemple, hein. Il y a notamment une disposition de cet ANI qui vise à imposer la confidentialité des représentants du personnel sur les informations qu'ils pourraient avoir en imposant des délais préfixés pour rendre leur avis et pour communiquer ces documents. Effectivement, on se rappelle que dans les dernières grandes luttes ou les dernières luttes qu'il peut y avoir, c'est parce qu'il y a des choses qui sont sorties comme ça, qui contredisaient d'une part le discours public de la part du patron et qui permettaient d'engager une mobilisation et de mettre justement à mal ce discours patronal. Et ben là, voilà, par exemple la PSA. Où il y avait normalement
Mittal,
exactement. Ben voilà une botte qui est trouvée par le patronat pour s'enlever quelque part une épine de ce qui pouvait lier du pied. Donc demain dans la rue, alors bien sûr ça va être des manifestations un peu syndicales, mais ça coûte rien d'y aller faire un tour pour porter une autre parole.
Ça fait.
La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort. Mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, c'était le Rigor. Chaque semaine, c'est l'école de Garrigue Montpellier qui en a suivi à Toulouse, Radio Primitive sur Reims. Le Rigor, une parole anarchiste communiste, émission que vous pouvez retrouver sur le blog sur le blog de Chat Noir 51 et sur le site Aussi Libertaire.